Sur PFM, j'accueille Nicolas Slovic, suppléant de Ameline Klenk-Mahy, et vous êtes candidat à la deuxième circonscription pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Votre président de l'UPR, c'est François Asselineau, diplômé d'HEC et de l'ENA. Il a travaillé dans de nombreux cabinets ministériels sous des gouvernements de droite. Alors, il a fait 0,92% au premier tour des élections présidentielles. Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
On ne peut pas dire ce qui n'a pas marché. Enfin, ce qui a été compliqué dès le départ, effectivement, François Asselineau a créé l'UPR depuis 10 ans. Donc, effectivement, aucun média n'a repris ses dires pendant ces 10 ans, pratiquement. On a eu un peu d'audience durant les quelques mois de la présidentielle par obligation, puisque c'est un parti qui n'est pas conforme dans la conformité de pensée aujourd'hui de cet européisme. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que, selon vous, son discours ne passe pas ?
Bah, son discours, c'est un discours de vérité. Donc ça, effectivement, ce n'est pas un discours politique. Hein. C'est un homme intègre qui explique peut-être un peu trop en profondeur les vrais problèmes de la France aujourd'hui.
Alors, pour l'UPR, les problèmes de la France sont essentiellement européens. Vous voyez, apparemment, dans votre programme, est-ce qu'il y a des choses que vous approuvez ou est-ce que vous êtes vraiment pour la sortie de la France de l'Europe ?
Alors aujourd'hui, c'est effectivement l'état de fait que l'on fait maintenant depuis quelques années. C'est un choix radical, c'est l'article 50, hein, c'est effectivement sortir de l'Europe, parce qu'on s'aperçoit que depuis 73 et 92 aujourd'hui de Maastricht, eh bien, une grande partie de nos industries donc ont quitté le pays, sont partis sur les pays de l'Est et d'autres pays du Maghreb, et aujourd'hui on par l'article 63 du TFEU, du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, il est interdit à la France d'interdire son évasion fiscale, donc c'est le gros problème aujourd'hui de la France.
Alors pourtant, le sujet européen a été quand même discuté au sein des présidentielles, mais le discours de François Asselineau a eu des difficultés de percer.
Ben effectivement, c'est un discours qui va à contresens, on va dire. Il ne caresse pas dans le bon sens du poil, hein, puisqu'il est seul aujourd'hui en France à prôner cette sortie de l'Union européenne. Et je pense que quand on a regardé ses émissions de télévision, c'était assez explicite, hein, puisque tous les candidats baissaient la tête dans son parler vrai. Hein, aucun n'osait pratiquement ne le regarder dans le blanc des yeux. Donc effectivement, c'est un discours peut-être radical, je peux comprendre que ce discours a peut-être pu faire un peu peur à certains, mais quand on regarde aujourd'hui l'Angleterre, le Brexit, ce qui est en train de se passer, hein, puisqu'ils sont en train de redécoller, nous souhaitons, nous, pour la France, ce même schéma, oui.
Pour revenir un petit peu sur la politique nationale, en ce moment, le débat, c'est un peu la moralisation de la vie politique suite aux diverses affaires. Qu'en pensez-vous ?
Ben, ce que j'en pense, c'est que c'est quand même dramatique de voir aujourd'hui qu'on est obligé bientôt de légiférer pour qu'il y ait une forme d'intégrité. Y a-t-il encore des politiques, des hommes en France capables de servir le pays avant tout dans leur intégrité ou avant de se servir eux de leur carrière? C'est pour ça qu'au sein de l'UPR, il n'y a pas de carriériste dans la politique. Hein, 100% des candidats donc ont un casier judiciaire vierge. 50% des personnels sont des candidates personnes féminines. Et voilà, aucun n'a été condamné. Donc, de cette moralisation, écoutez, s'il faut apprendre aux gens à ne pas voler, à ne pas mentir, où va-t-on, quoi ?
Une autre actualité pour le nouveau président Emmanuel Macron, c'est bien sûr la réforme du travail. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, c'est encore une fois quelque chose de dramatique. Avant de s'en prendre à la réforme du travail, il y a autre chose à faire. De cette évasion fiscale, par exemple, c'est 90 milliards d'euros par an, et le mal, il n'est pas chez les ouvriers. Moi, je suis fils d'immigrés polonais, donc je travaille sur le bassin minier depuis 14 ans sur le développement économique, donc je connais le mal qui ronge notre pays, et c'est certainement pas le pauvre SMIC ou le pauvre salaire de l'ouvrier qui aujourd'hui plombe l'économie française, quoi. Donc je suis plutôt attristé de cette nouvelle directive qui, encore une fois, va servir les intérêts financiers des grands groupes, des fonds d'investissement, pour avoir demain une rentabilité de 2 ou 3 points supérieurs, quoi. Et c'est vraiment ça qui est lamentable.
Alors, si vous êtes amené à être un jour député, que pensez-vous du 49-3 ou de la méthode de l'ordonnance pour passer des lois sans qu'il y ait le vote parlementaire?
Écoutez, ça, on a vu ça le dernier, pendant le gouvernement de M. Hollande. Hein, c'est encore une fois quelque chose de dramatique, mais bon, on s'aperçoit encore une chose que notre démocratie n'en est plus une. On est dans une république, on va dire, théâtrale, d'enjeux à l'Assemblée nationale. Bon, tout ça, c'est pas bien sérieux, quoi. Il y a tellement, tellement à dire, mais en 10 minutes, c'est un peu court. Hein.
Quel est votre regard sur la circonscription dans laquelle vous vous présentez avec Madame Ameline Klink-Mahy?
Écoutez, moi je suis arrageois maintenant depuis 50 ans, donc j'ai vu la communauté urbaine d'Arras se modifier avec les années Fatou. Effectivement, on va dire que Arras a pu bénéficier avec les grandes, on va dire, métropoles, hein, de ces fonds européens, puisque la France verse 23 milliards à l'Europe, en récupère 14, même s'il nous en manque 9. Donc grâce à ces fonds européens, ils ont quand même été ciblés, on va dire, politiquement, puisque la région a été quand même socialiste pendant plus de 30 ans, donc avec M. Percheron, Mauroy. Donc tous ces fonds européens ont quand même été ciblés sur ces villes. Donc elles se sont développées grâce à ça, quoi. Et on voit aujourd'hui que sans argent, on ne peut pas rénover. Je pense à la ruralité, hein, je pense à l'est ou à l'ouest de la région, je pense à la côte ou à la Vénois, hein, ou au Denaisie, par exemple, ou à d'autres régions. Donc Arras n'est pas si mal loti que ça, quoi.
Selon vous, quels sont les enjeux de ces législatives?
Écoutez, aujourd'hui, je pense que le pays se cherche, quand on voit un peu cette multitude de partis. Donc chacun essaye d'exprimer ses positions. Je peux comprendre que c'est confus pour le citoyen, qui en a d'ailleurs un peu ras-le-bol de tout ce système politique. Mais il faut encore gouverner le pays, il faut garder cette espérance, hein, et l'UPR veut intervenir dans ce champ politique, veut redonner espoir, puisque il n'y a aucune raison, la France est quand même la quatrième puissance économique mondiale, il n'y a aucune raison qu'on a tous les atouts aujourd'hui, cette intelligence, cette capacité de production, et aujourd'hui refaire revenir nos entreprises, il n'y a aucun problème, puisqu'on vient de réimplanter par exemple sa France sur l'Amandinois, puisqu'on en est, je travaille sur ces zones-là. Donc il y a le territoire à du personnel hautement qualifié. Quand on entend les chefs d'entreprise, voilà, on a de la main-d'œuvre hautement qualifiée en France, quoi.
Quel est le projet de l'UPR? Est-ce qu'il a changé depuis les présidentielles?
Non, enfin, l'UPR restera sur ses rails, avec une locomotive aujourd'hui avec le Bureau national et puis François Asselineau. Hein. Le mal ne va pas changer demain matin. Le mal, on le connaît, on connaît ses conséquences. L'évasion fiscale, puisque si vous écoutez le rapport Bocquet, Alain Bocquet, c'est 80 à 90 milliards d'euros d'évasion fiscale tous les ans, et ça va pas s'arrêter. Donc vouloir un pays, un retour 50-70 ans en arrière, puisque moi, mon père était galibot à 11 ans dans les mines et cassé à la gaillette, je vois mal demain, si je suis rentré aujourd'hui en politique, je pense à ma petite fille qui a 5 ans. Et je me dis, pour le devoir de mémoire de mon grand-père et mon père qui se sont battus au front, pour le front populaire, pour le confort aujourd'hui que nous avons, je pense que le Français n'est pas conscient du confort de vie qu'il a aujourd'hui. Excusez-moi, on est des grands gueulards, mais les congés payés, la sécurité sociale, etc., etc., nous le devons à nos pères et nos grands-parents. Et nous avons ce devoir de continuer à perpétrer cela pour nos enfants et nos petits-enfants. Écoutez, le Front populaire, excusez-moi, l'UPR n'est pas ni à droite ni à gauche. L'UPR est pour le droit à vivre dignement pour tous. indifféremment, puisque nous avons des gens des déçus du Front National, des gens de déçus. Nous avons des élus communistes qui sont venus d'ailleurs pour les 10 ans de l'UPR à Paris il y a quelques semaines. Donc, en fait, ça rassemble, je dirais, les déçus de la politique. Aujourd'hui, l'UPR, c'est 28 200 adhérents et militants payants, puisque nous n'avons pas de dette à l'UPR pour faire campagne. Nous n'avons pas d'emprunt. Contrairement à tous ces partis politiques, donc on fait avec nos moyens du bord et on fait avec la volonté de chacun.
Et bien sur PFM, j'étais avec Nicolas Slevik, suppléant de Ameline Klein-Mailly, et vous présentez à la candidature de cette deuxième circonscription pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Merci.
Merci à vous.